enfermé dans les pioles. Avec du hack-kick, et vous chantez des chansons tristes. Ah, triste, vous êtes triste. Ah, triste. À 40 ans, vous serrez les loïcs humaines.
Bonjour à vous, chers auditeurs. Les Nouveaux Chemins vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en podcast. Cette première semaine de notre nouvelle grillée sous le signe de la jeunesse, après Platon et les jeunes gens indispensables à la maïeutique lundi, le rêve mortifère de l'éternelle jeunesse par Dorian Gray d'Oscar Wilde et hier, c'est aujourd'hui le philosophe Pierre-Henri Tavoyot qui vient s'interroger sur la pertinence d'une philosophie des âges de la vie. Bonjour à vous, Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour.
À 10h50, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera de précieux conseils à vous, cher Thésard, qui préparait une thèse donc cette année. Géraldine qui vous parlera du texte d'Umberto Eco, Comment écrire sa thèse, publiée chez Flammarion.
Il n'y a rien de plus beau que de contempler les désirs, l'engagement, la passion et l'énergie avec lesquelles de nombreux jeunes affrontent la vie. Ça, c'est vraiment beau. Il est stimulant de les écouter partager leurs rêves, leurs interrogations, leurs désirs de s'opposer à tous ceux qui disent que les choses ne peuvent pas changer. Les jeunes ont cette force de s'opposer à ces gens-là. Mais il y en a qui ne sont pas sûrs de ces. Je pose la question maintenant, répondez-moi. Les choses, on peut les changer, oui ou non? Je n'ai pas bien entendu. Voilà. L'Église, aujourd'hui, vous regarde. Je dirais même plus. Le monde, aujourd'hui, vous regarde.
Quand on entend le pape François s'adresser à la jeunesse, c'était à Cracovie durant les JMJ 2016, il y a peu de temps, on se demande qui est en campagne. Alors Pierre-Henri Tavoyot, vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne, auteur de notamment deux ouvrages qui nous intéressent pour aujourd'hui, « Faire ou ne pas faire son âge » paru aux éditions de l'Aube, et puis « Philosophie des âges de la vie ». Justement, quand le pape François s'adresse à la jeunesse, à qui s'adresse-t-il vraiment?
Ce qui est un peu troublant, c'est qu'on a un discours de près, effectivement, de campagne. Je rappelle que l'Église est supposée être éternelle. Donc, demander le changement, là, je suis très, très déçu. Si on pouvait attendre, disons, un discours conservateur un peu construit, c'était bien de la part du pape. Donc, s'adresser à la jeunesse comme force de changement, c'est très déconcertant. Oui.
Mais c'est toujours ce qui se passe, en réalité. Quand la jeunesse est évoquée dans les discours, que ce soit le discours du pape ou les discours... Pour le coup, je faisais une mauvaise blague en disant que tu n'étais pas en campagne, mais que les candidats en campagne, quand ils évoquent la jeunesse, c'est toujours une manière d'en appeler au changement. C'est pour ça que je me demande à qui ils s'adressent.
Toujours peut-être pas, mais ça correspond vraiment à la modernité. C'est-à-dire que la modernité considère que, contrairement à la tradition considère que le passé est la valeur suprême, et donc les générations qui incarnent le passé, c'est-à-dire les grands ancêtres, sont valorisées. C'est pour ça qu'il faut vieillir. Vieillir, c'est la réussite de vie. La modernité considère que c'est l'avenir qui est la valeur, et dans ce cas-là, qui est l'avenir dans le présent? Ce sont les jeunes. Donc les jeunes représentent la génération qui est la génération la plus frappante, celle qu'on doit valoriser. Les jeunes ou les enfants même d'ailleurs. Les adultes, on ne sait pas trop où ils sont, mais on a là une opposition entre le monde traditionnel qui valorise la vieillesse et le monde moderne qui est supposé valoriser la jeunesse, même si on peut nuancer ça un peu.
Nuançons et surtout définissons. Vous venez de parler des jeunes, le pape François parlait des jeunes, nous entendons tout le temps parler des jeunes. Comment essayer de définir où commence la jeunesse, où s'arrête-t-elle et en quoi est-ce que cette définition de la jeunesse a évolué au cours des âges?
On peut faire une rapide histoire de la jeunesse en disant d'abord que c'est pas forcément un âge naturel. C'est à l'état de nature, dans la nature biologique, on a l'enfance, on a l'âge adulte, mais très peu de jeunesse et très peu de vieillesse. vieillesse parce qu'on n'a pas le temps, et jeunesse. Jeunesse, c'est le moment, sociologiquement ou anthropologiquement, où on peut se reproduire, mais où on n'a pas le droit. Et dans toutes les sociétés humaines connues, il y a ce qu'on appelle un moratoire. Vous avez la possibilité de vous reproduire, mais vous n'avez pas le droit. Il va falloir attendre, etc. Rousseau est très fort là-dessus parce qu'il dit qu'il y a ce moment est indispensable pour développer la culture et la civilisation. Dans ce moment de, j'allais dire, de rétention des désirs et des pulsions sexuelles, il y a quelque chose qui se déplace sur la culture, sur la civilisation, et c'est ça qui contribue à quelque chose comme l'humanité. Alors simplement, ce qui caractérise le monde moderne, c'est que cette phase s'est considérablement allongée. Là encore, caricaturons, dans les sociétés traditionnelles, la jeunesse, c'est 3 jours. Ça s'appelle le rite de passage. On prend les enfants dans les jupes de leur mère, on les isole, on les initie aux secrets essentiels du monde, et après on les remet, ils ont changé complètement d'identité, d'attitude. Voilà. Aujourd'hui, ça dure, on va dire, 30 ans. Voilà. Elle commence de plus en plus tôt, et elle finit de plus en plus tard, et certains disent jamais.
C'est parce qu'il n'y a pas de rite aussi, justement. Vous dites, quand ça dure 3 jours, c'est parce que la jeunesse est une catégorie vraiment sociale, symboliquement ancrée dans des rites perpétués par la société. Aujourd'hui, ça dure 30 ans parce que c'est voilà. On parle d'un individu jeune et pas d'une société jeune.
Effectivement, la ritualisation a définitivement disparu. C'est-à-dire, certains disent qu'il faut remettre des rites, etc. Par exemple, le service militaire qui était un rite. Bon, d'accord, rite utile, mais je rappelle qu'il ne concernait qu'une partie de la jeunesse. Donc, c'était pas un rite universel. Mais rite, c'est quelque chose de fort. Le rite au sens strict, c'est la société qui décide et pas l'individu. Et c'est un changement d'un seul coup brutal de l'identité. C'est ça un rite. Un rite permet, c'est très profond d'ailleurs, on peut le justifier, c'est une mort. C'est une petite mort. Et on change totalement d'identité. D'ailleurs, très intéressant dans les sociétés traditionnelles parce que on vit plein de rites. Et quand la mort arrive, j'allais dire, on est entraîné à toute cette à cette mort. Et donc, la mort n'effraie plus, parce qu'on l'a vécu plein de fois. Le rite de la jeunesse, c'est vraiment la transformation de l'identité d'un seul coup. Et ce qui caractérise notre société, c'est qu'elle est individualiste, donc on ne veut plus que la société décide pour nous, et d'autre part, qu'on ne change pas d'identité, puisque ce qui est important, c'est d'être soi-même. Donc, on cherche à être soi-même d'un âge à l'autre, ce pourquoi les rites, effectivement, ont définitivement disparu, et ce pourquoi aussi, à la faveur de l'augmentation de l'espérance de vie, en effet, eh bien, la jeunesse s'est considérablement allongée. C'est les deux âges qui se sont allongés, c'est les âges non naturels, la jeunesse et la vieillesse. L'enfance est de plus en plus courte, et l'âge adulte, on en parlera peut-être, il est peut-être un peu inexistant.
Ce qui veut dire que la jeunesse ne serait qu'un terme, qu'un mot qui renvoie à, disons, une période révolue pour ceux qui l'emploient, qui se considèrent eux-mêmes comme adultes, ou à une espèce de catégorie sociale qu'on n'arrive pas trop à définir, si ce n'est simplement dire qu'elle est plus large qu'à une autre période de l'histoire.
Alors, c'est la fameuse phrase de Bourdieu qui disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». Alors, je pense qu'il faut être précis. C'est-à-dire que la jeunesse, en effet, est très variée, plurielle au cours de l'histoire, et sociologiquement plurielle aujourd'hui, par exemple. Il n'y a pas une jeunesse. Mais en même temps, ce n'est pas qu'un mot. C'est une étape anthropologique de l'existence. C'est le moment où, sortant de l'enfance, qu'est-ce qu'un enfant ? Ça aussi, ça varie. On se pose la question « pourquoi grandir ?» Et la jeunesse, c'est cette étape devenue de plus en plus longue où effectivement la question « pourquoi grandir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'un adulte ?» se pose et on essaye effectivement par la formation, par les études d'y répondre.
Il y avait la liberté, la douceur de vivre, c'était vraiment le bon temps.
Je virais des cafés, on n'a jamais un rond, on sèche les 3/4 des cours, on n'aura jamais le bac.
On était calme, ordonné, réfléchi. C'était autre chose qu'aujourd'hui. Bon, il y avait les copains, les copines.
Qu'est-ce que je viens de dire, sa mère ?
La quête du savoir.
14%, monsieur.
Ouais.
Les vrais engagements.
Je ne peux pas me faire violer, moi. Je peux très bien me faire violer.
Les vrais problèmes.
Non, mais je m'excuse, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Je m'excuse, il y a plein de mecs qui viennent me faire chier dans la rue.
Oh.
Oui, qu'est-ce que tu crois ? Encore heureux.
L'aventure.
Au nom de Dieu.
Le courage. Les expériences.
Quand on est un interro, on
les rencontres.
Tiens, lui, c'est le
Il est berger des arbres. Il a une espèce de contact comme ça avec la nature. Il habite boulevard Saint-Michel.
Le dialogue.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos? Le jeune?
Bon, finalement, rien n'a changé.
L'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable. Et le fait de parler des jeunes comme d'une unité sociale, d'un groupe constitué, doté d'intérêts communs, et de rapporter ses intérêts à un âge défini biologiquement, constitue déjà une manipulation évidente. Autrement dit, c'est par un abus de langage formidable que l'on peut subsumer sous le même concept des univers sociaux qui n'ont pratiquement rien de commun. Dans un cas, on a un univers d'adolescence, au sens vrai, c'est-à-dire d'irresponsabilité provisoire. Ces jeunes sont dans une sorte de no man's land social. Ils sont adultes pour certaines choses, ils sont enfants pour d'autres. Ils jouent sur les deux tableaux. C'est pourquoi beaucoup d'adolescents bourgeois rêvent de prolonger l'adolescence. C'est le complexe de Frédéric, de l'éducation sentimentale, qui éternise l'adolescence. Pierre-Henri Tavoyot, comment répondre à Bourdieu qui affirme donc que la jeunesse est finalement un mot qui fait l'objet d'une manipulation évidente, en ce que la jeunesse ne recouvre pas une réalité homogène et bien diverses réalités à la fois sociales, de caractère, d'âge, etc., pour tenter de peut-être sauver la réalité que l'on met derrière la jeunesse, si c'est le cas.
Oui, le propos de Bourdieu est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette théorie du complot, c'est-à-dire on manipule, et donc c'est une catégorie qui en fait obscurcit la réalité sociale. Mais immédiatement après, il définit très bien la jeunesse.
Il parle de l'adolescence.
Oui, l'adolescence ou la jeunesse, mais on va revenir sur les mots. Oui. C'est très conventionnel là-dessus, mais on peut le faire. Il dit voilà, c'est une phase intermédiaire qui mixe de manière toujours labile et incertaine de l'enfance et de l'adulte. C'est en effet ça qui caractérise cette période de la vie où on continue pour une part et de moins en moins à être encore enfant et de plus en plus on prétend et on exige et finalement, on finit par l'être, à être adulte. Et donc, c'est une phase où je demande à la fois plus de protection, de la protection, peut-être de moins en moins, et de plus en plus de liberté. C'est exactement ça, la jeunesse.
Oui, mais simplement... du coup, ça peut être entre l'âge de 10 ans
exactement.
Et 60 ans.
Voilà, donc après, ce qui caractérise notre époque, pour le coup, c'est effectivement que cette période est devenue indéterminée, plus large, plus ample, et aussi qu'elle est partagée. Et c'est ça qui caractérise par les hommes et par les femmes. Je rappelle qu'à Rome, le terme adolescent était attribué exclusivement aux hommes.
Mais à partir du moment où la jeunesse s'applique à une telle réalité, aussi diverse, à une telle diversité de classes d'âge, est-ce que ça a encore un sens de parler de jeunesse? C'est là où Bourdieu n'a peut-être pas tort. Peut-être qu'il faut parler d'envie de liberté, d'envie de changement, de devenir soi-même.
Alors, ce serait paradoxal parce qu'effectivement, tout le monde a envie d'être jeune aujourd'hui et la jeunesse n'existerait pas. C'est peut-être ça aussi qui brouille le phénomène.
Tragédie de la réalité humaine.
Il me semble qu'il y a des éléments qui sont anthropologiquement fondamentaux. C'est pas sur le plan sociologique, parce qu'effectivement, du point de vue de la société et de l'histoire, les choses changent énormément. Mais la phase reste la même. Donnons un repère. Quand on lit la rhétorique d'Aristote et que vous avez une description de ce qu'est la jeunesse pour Aristote... entre l'enfance et la vieillesse, ça correspond chez Aristote dans la rhétorique, au type de discours. Eh bien, on s'aperçoit que le portrait qu'il fait, je vous invite à le lire peut-être plus en détail, le portrait qu'il fait de la jeunesse correspond exactement à ce qu'aujourd'hui tous les spécialistes du marketing appellent la génération Y. C'est absolument fascinant. Donc, cette continuité et cette manière de perdurer témoigne bien du fait que la jeunesse n'est pas simplement un mot. Si Aristote
non,
et les marketing sont
mais c'est un caractère,
d'accord.
Nous dit Aristote.
Oui, c'est un caractère.
Et non pas un âge de la vie.
Alors, c'est là où les périodes sont plus effectivement flottantes. Aristote parlait des hommes et une période relativement restreinte. Aujourd'hui, on peut considérer que la jeunesse commence de plus en plus tôt. Première phase, disons vers 12-13 ans, c'est l'entrée, la sortie de l'enfance. Ce qu'on peut appeler, mais c'est purement conventionnel, c'est avec Éric Deschavannes ce que nous avions, disons, proposé, l'adolescence. L'adolescence, c'est la sortie de l'enfance. Et puis, une autre phase de la vie, qui est l'entrée dans l'âge adulte, qui, elle aussi, devient de plus en plus... Alors, la sortie de l'enfance est de plus en plus précoce, et l'entrée dans l'âge adulte est de plus en plus tardive. Mais cette période existe. Le point, sociologiquement cette fois-ci, je me place d'un point de vue sociologique, qui marque, disons, la fin de la jeunesse, c'est la naissance du premier enfant. Voilà. Alors, c'est une moyenne. Si vous demandez, faites l'expérience autour de vous, demandez aux individus, à votre entourage, est-ce que tu te sens adulte ? Les gens vont dire, oui, non, peut-être. Pour ceux qui disent, je me sens adulte, à quel âge es-tu devenu adulte ? Alors, certains disent, c'est l'entrée dans la vie professionnelle. Mais l'immense majorité dit, c'est la naissance du premier enfant. Alors, tout le monde n'a pas des enfants, donc ça veut dire
non, et puis surtout, certains vivent l'arrivée d'un premier enfant comme, au contraire, un prétexte pour retomber dans une forme d'adolescence, d'âge perdu, alors, qui n'aura plus lieu maintenant que les responsabilités arrivent.
C'est plutôt rare,
c'est-à-dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est difficile de raisonner autrement qu'en termes de généralité.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est là, pour le coup, c'est pour donner un marqueur sociologique. C'est-à-dire, vous avez là toute une série de comportements qui... Ça va entraîner toute une série de changements de comportements sur le plan électoral, sur le plan financier, sur le plan de l'épargne, voilà, toute une série de choses qui vont transformer la vie des individus. Alors attention, tous les parents ne sont pas adultes et tous les adultes ne sont pas des parents. On peut, disons, trouver d'autres manières de devenir adulte, soyons clairs. Mais en tout cas, d'un point de vue sociologique, il y a quelque chose qui se dessine avec ce marqueur-là. C'est pas un rite de passage, c'est un seuil. 30 ans environ, 28,5 ans aujourd'hui, pour les hommes comme pour les femmes.
L'ouvrage que vous avez écrit avec Éric Deschavannes s'intitule « Philosophie des âges de la vie ». Alors comment passe-t-on d'une approche sociologique et donc empirique et qui peut-être se doit de se servir du terme de jeunesse comme une forme de catégorie dont elle va essayer d'ausculter la réalité qui se cache derrière, à une philosophie à proprement parler, dans la mesure où le discours philosophique, la méthode même philosophique, est censée s'adresser à peut-être des gens qui sont en âge de raisonner, mais à une portée, une prétention universelle. Est-ce que ça a un sens à penser l'homme en distinguant des âges de la vie ?
C'est-à-dire que on considère que la question des âges de la vie est une question philosophique. De tout temps. Comment conduire sa vie ? Voilà. Du berceau à la tombe. Et donc la question de savoir comment conduire sa vie, inévitablement, nous dit selon quelles étapes ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Qu'est-ce qu'une vie accomplie ? C'est ça la définition de l'adulte. Donc la question des âges de la vie est une question éminemment philosophique, peut-être même la question la plus philosophique, parce que c'est très empirique, c'est très simple. Tout le monde se la pose. Comment grandir, comment réussir sa vie, etc. Ce qui a caractérisé cette question, c'est que elle a été d'une certaine façon préemptée par les sciences humaines après Rousseau. Sociologie, anthropologie, histoire, et c'était une très bonne chose parce que sur chacun des âges de la vie, ces sciences humaines ont développé les savoirs de manière considérable. Et c'était très intéressant. Mais ça a eu un coût extrêmement dur, c'est-à-dire ça a fragmenté les étapes de l'existence. Vous avez une très bonne sociologie de la jeunesse, une très bonne anthropologie de la vieillesse, une très bonne histoire de l'enfance, mais tout ça est découpé. Et donc le projet qu'on avait avec Éric Deschavannes, c'était de utiliser ce savoir énorme et passionnant de grands historiens et de grands sociologues pour remettre de la continuité dans cette existence et revenir nourri de ces sciences humaines à cette question basique. Qu'est-ce qu'un enfant ? Pourquoi grandir ? Qu'est-ce qu'un adulte ? Pourquoi vieillir ? Voilà. Et à la limite, pourquoi naître et pourquoi mourir ? Mais voilà, remettre de la continuité dans ce que nous apportent les sciences humaines à l'aune de ce sentiment contemporain, et c'est ça l'enjeu principal de brouillage des âges.
Mais précisément, vous parlez de continuité, vous voulez apporter de la continuité, mais vous gardez les catégories des âges de la vie. Quel sens, pourquoi finalement maintenir ces catégories-là ? Pourquoi distinguer des âges de la vie, ne pas considérer la vie comme un flux continu ?
Alors, on pourrait le faire, et c'est effectivement une tentation, c'est de se dire aujourd'hui, peu importe les âges, surtout ne pas faire son âge. Les enfants veulent être des ados, les ados veulent être des adultes, les adultes veulent rester jeunes, et les vieux ne veulent pas vieillir. On a l'impression que personne ne veut faire son âge. Je pense que c'est malgré tout une vision trop rapide et superficielle de la société, les âges persistent. Et ils persistent d'ailleurs dans ce qu'on peut appeler les concepts de Paul Ricoeur, de l'identité narrative. Quand on veut raconter sa vie, quand on réfléchit à qui on est, les premières catégories qui s'imposent à nous pour raconter cette existence, pour remettre notre existence dans le flux éclaté de l'hypermodernité, c'est effectivement enfance, jeunesse, âge adulte, vieillesse, c'est-à-dire de utiliser ces catégories comme la grammaire de l'identité narrative. Voilà ce en quoi les âges de la vie demeurent aujourd'hui comme des catégories anthropologiques fondamentales, pas du point de vue collectif, mais du point de vue individuel.
La nuit, les bandes de jeunes se déchaînaient, surtout en banlieue, et pourchassaient les vieux. Quand ils parvenaient à en attraper un, ils le bourraient de coups de pied, ils lui arrachaient ses vêtements, le fouettaient, le peinturluraient de vernis, et puis l'abandonnaient ligoté à un arbre ou à un réverbère. Dans certains cas, tout à la frénésie de leur rite brutal, ils dépassaient la mesure. Et à l'aube, on trouvait au milieu de la rue des cadavres méconnaissables et souillés. Le problème des jeunes. Cet éternel tourment qui, depuis des millénaires, s'était résolu sans drame de père en fils, explosait finalement. Les journaux, la radio, la télévision, les films y étaient pour quelque chose. On flattait les jeunes, on les plaignait, ils étaient adulés, exaltés, encouragés à s'imposer au monde de n'importe quelle façon, jusqu'aux vieux qui, apeurés devant ce vaste mouvement des esprits, y participaient pour se créer un alibi, pour faire savoir, mais c'était bien inutile, qu'ils avaient 50 ou 60 ans, ça oui, mais que leur esprit était encore jeune et qu'ils partageaient les aspirations et les souffrances des nouvelles recrues. Ils se faisaient des illusions. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient. Les jeunes étaient contre eux. Les jeunes se sentaient les maîtres du monde. Les jeunes, en toute justice, réclamaient le pouvoir jusqu'alors tenu par les patriarches. L'âge est un crime, tel était leur slogan.
À travers velles et courettes, criant des mouches, des crevettes.
Une chose que je n'ai jamais pu supporter, c'est de voir de vieux clochards poicres et sous-perdus bramant les vieux refrains poicres de leurs ancêtres en faisant blop-blop entre les deux. Comme s'ils avaient tout un bastringue poicreux dans leur vieille tripe pourrie. Je ne peux pas supporter de voir les types comme ça, qu'ils soient jeunes ou âgés, mais plus spécialement les vieux tout ridés comme celui-ci.
N'auriez pas une pièce de trop, mes frères? Moi, sale petit lâche, je ne peux plus vivre de toute façon. En tout cas, pas dans un monde si dégoûtant.
Oh ? Et qu'est-ce qu'il a de si dégoûtant, ce monde ?
Il est dégoûtant parce qu'il n'y a ni loi ni ordre nulle part. Il est dégoûtant parce qu'il laisse les jeunes s'attaquer aux vieux comme vous faites. Oh, c'est plus un monde de vivable. Pour les vieillards. Oh, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, notre monde? L'homme est sur la lune, on expédie des fusées autour de la Terre et dans les étoiles, mais on ne fait plus attention ni aux lois ni à l'ordre de notre monde.
Oh, Terre chérie, oh, je meurs pour toi, Terre.
Pierre-Henri Tavoyeux, je ne sais pas s'il y a un sens à maintenir différents âges au sein quand on réfléchit à ce qu'est l'existence humaine, et c'est le sujet de la discussion que nous avons aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, en tout cas peut-être, aime-t-on le penser, une forme de lutte des âges et lutte des générations. On a entendu un extrait de la nouvelle de Dino Buzzati, Chasseur de vieux, qui finissait avec cette phrase, hein, « L'âge est un crime », tel était le slogan de ces personnes, à la fois des jeunes qui s'en prennent en vieux, aux vieux et des vieux qui déplorent l'existence des jeunes. L'extrait d'Orange Mécanique qu'on vient d'entendre relate exactement la même chose. Hein. Finalement, c'est un conflit, pas simplement entre jeunes et vieux, mais entre une génération et une autre, même entre un état de fait du monde à un certain moment et à un autre état qui, lui, soit est passé et que l'on regrette, soit qui n'est pas encore advenu et que l'on souhaite.
C'est alors la nouvelle de Buzzati se termine par le fait que le chef des chasseurs de vieux devient lui-même le gibier de sa bande parce qu'il est devenu vieux. Donc, ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est de montrer que la lutte des âges est totalement absurde. Je voudrais là-dessus dire la chose suivante. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation où effectivement, nous vivons le brouillage des âges. On ne sait plus très bien, on ne connaît plus ces étapes de l'existence, comme le suggériez tout à l'heure. Et on a le sentiment qu'en fait, oui, ce qui importe, c'est d'être soi-même, peu importe l'âge que l'on a. Ce brouillage, en fait, donne lieu à deux interprétations inverses et contradictoires. Soit on peut dire, ce brouillage, c'est la fin des âges de la vie. Donc, aujourd'hui, nous allons nous débarrasser de ces étapes de l'existence. Ce qui importe, encore une fois, c'est d'être soi-même. Produit anti-âge, parfaitement révélateur de cette affaire. Ça, c'est le premier scénario qui est effectivement plausible. On voit sur certains points. Puis un deuxième scénario qui est exactement inverse, qui consiste à dire non, le brouillage des âges, c'est pas la disparition des âges, c'est la lutte des âges. C'est-à-dire les âges se brouillent au sens où ils se disputent entre eux. Ce sont deux scénarios explicatifs qui, le second fonctionne aussi bien. C'est-à-dire qu'on voit dans plein de, par exemple dans les partis politiques, le fait que les générations, Macron démissionne, voilà, on va renouveler la politique. Donc il y a aussi une lutte des âges. Ces deux scénarios sont plausibles, ils sont contradictoires. Je pense que de ce point de vue-là, ils n'expliquent pas ce qui se passe vraiment dans la société, précisément parce qu'on est tenté par les deux. Nous assistons plutôt à une reconfiguration des âges de la vie, à une redéfinition des âges de la vie qui se focalise sur un point, c'est le fait que nous ne savons plus très bien aujourd'hui ce qu'est un adulte. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, est la clé. Pourquoi ? Parce que l'âge adulte, c'était l'âge étalon. C'était l'âge de référence. C'était l'âge arbitre. Ou c'est l'âge arbitre. C'est l'âge qui réconcilie tous les âges. C'est le sommet de la vie, comme disait Aristote. Alors Aristote disait 35 ans pour le corps, le sommet de la vie, et 49 ans environ pour l'esprit. Bon, finalement, pourquoi pas ?
Dépêchons-nous.
51 ans, donc je suis un peu sur la phase descendante. Mais voilà, donc c'est l'idée que ce sommet de la vie est devenu brouillé. Et donc tous les âges... L'hypothèse qu'on peut défendre à l'inverse, c'est qu'en fait, ces âges, effectivement, ont changé, mais demeurent. Ils demeurent profondément, et l'âge adulte n'a rien... si je puis dire, n'a pas pris une ride aujourd'hui. En fait, les jeunes veulent toujours autant être adultes, même s'ils ont sentiment que ça va être plus long, plus difficile et plus compliqué. Mais de toute façon, après tout, pourquoi se presser, puisque la vie est plus longue. La vieillesse continue, le cas échéant, à avoir un sens. C'est pas non plus le rebut. On n'a jamais autant investi et réfléchi sur la manière de penser et de gérer en quelque sorte la vieillesse dans notre
mais
société.
Mais les deux ne sont pas incompatibles. Vous citiez vous-même tout à l'heure Aristote qui définit la jeunesse plus comme un caractère qu'un âge de la vie. On peut très bien être adulte. Vous l'avez dit, voilà, un des moyens de vérifier, de se sentir adulte, c'est notamment le jour où naît son premier enfant, on se sent devenir adulte. Soit, mais on peut tout à fait être adulte et rester jeune, dans la mesure où la jeunesse serait plus un état d'esprit qu'un âge de la vie. J'ai du mal à comprendre pourquoi maintenir la jeunesse comme âge de la vie à tout prix.
Non, justement parce qu'on devient adulte. C'est-à-dire, le mot adolescence, c'est je grandis. Adulte, c'est j'ai grandi. Donc j'arrête de grandir et je commence à faire autre chose. Par exemple, m'élargir. Ça marche comme ça pour le corps. Ça peut aussi fonctionner comme ça pour l'esprit. Ce qui caractérise de manière fondamentale l'âge adulte, c'est le moment, pour le dire d'un mot, où on arrête de penser qu'à soi, pour s'ouvrir un tout petit peu sur l'environnement. Alors évidemment, on ne sait pas à quel âge ça va arriver. Ça ne va pas arriver à 30 ans. Ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tard. Mais existentiellement, c'est pour ça que c'est important maintenant de parler de philosophiquement des âges de la vie. Parce que ce n'est pas une catégorie, on veut dire, à 30 ans, on est adulte. C'est une expérience existentielle. Il y a un moment de la vie où effectivement, on bascule dans un autre type d'expérience. On se consacre davantage aux autres, on s'élargit, on envisage la responsabilité, peut-être l'authenticité, creuser ce que l'on est. Et ce nouveau regard sur le monde désigne l'âge adulte, comme un nouveau regard sur le monde peut désigner aussi la vieillesse. Donc ces catégories restent, non pas comme des catégories sociologiques, ça c'est devenu beaucoup plus labile et incertain, mais comme des catégories existentielles.
Comme le mugissement de la mer précède de loin la tempête, cette orageuse révolution s'annonce par le murmure des passions naissantes. Une fermentation sourde avertit de l'approche du danger. Un changement dans l'humeur, des emportements fréquents, une continuelle agitation d'esprit rendent l'enfant presque indisciplinable. Il devient sourd à la voix qui le rendait docile. C'est un lion dans sa fièvre. Il méconnaît son guide. Il ne veut plus être gouverné. Aux signes moraux d'une humeur qui s'altère, se joignent des changements sensibles dans la figure. Sa physionomie se développe et s'empreint d'un caractère. Le coton rare et doux qui croît au bas de ses joues brunies et prend de la consistance. Sa voix mue, ou plutôt il la perd. Il n'est ni enfant ni homme et ne peut prendre le ton d'aucun des deux. Ses yeux, ses organes de l'âme, qui n'ont rien dit jusqu'ici, trouvent un langage et de l'expression. Un feu naissant les anime. Leurs regards plus vifs ont encore une sainte innocence, mais ils n'ont plus leur première imbécilité. Ils sentent déjà qu'ils peuvent trop dire. Ils commencent à savoir les baisser et rougir. Il devient sensible avant de savoir ce qu'il sent. Il est inquiet sans raison de l'être. Tout cela peut venir lentement et vous laisser du temps encore. Mais si sa vivacité se rend trop impatiente, si son emportement se change en fureur, s'il s'irrite et s'attendrit d'un instant à l'autre, s'il verse des pleurs sans sujet, si près des objets qui commencent à devenir dangereux pour lui son pouce s'élève et son œil s'enflamme, si la main d'une femme se posant sur la sienne le fait frissonner, s'il se trouble ou s'intimide auprès d'elle, Ulysse, ô sage Ulysse, prends garde à toi. Les outres que tu fermais avec tant de soin sont ouvertes. Les vents sont déjà déchaînés. Ne quitte plus un moment le gouvernail, où tout est perdu. C'est ici la seconde naissance. C'est ici que l'homme naît véritablement à la vie, et que rien d'humain n'est étranger à lui.
Pauvre jeunesse, tu t'es endormie avec ton astidache et puis ta marie. Ton peace and love, moi je l'ai au cul. Ton LSD et puis toi par-dessus. Pauvre jeunesse, tu t'es endormie avec ton astidache et puis ta marie. Bâtir un pays, ça se fait debout. Pas avec des fleurs et des I love you. Ne prends pas le crédit pour ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne supportes les pocheurs de la gendarmerie. Et pendant que tu rêves dans ton monde noir, tu marches sans aide vers l'abattoir. Pauvre jeunesse.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h33 et c'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à la jeunesse. Après Platon et l'indispensable présence des jeunes gens pour la maïeutique socratique, ça c'était lundi. Après Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray qui rêve de jeunesse éternelle, c'était hier mardi. Avant François Truffaut et Antoine Doinel qui vous relateront la difficile sortie de l'enfance et entrée dans l'âge adulte, il reste peu de place pour la jeunesse. Et bien aujourd'hui, c'est la philosophie des âges de la vie que nous parlons, en compagnie de Pierre-Henri Tavoyot, qui a consacré un ouvrage sur cette question avec Éric de Chavannes. Pierre-Henri Tavoyot, qui est également l'auteur de Faire ou ne pas faire son âge, publié aux éditions de l'Aube.
Toi, tu n'es qu'une loque que l'on pousse du pied. Pauvre jeunesse, tu t'es endormie avec ton astidache et puis ta marie. Ton peace and love, moi je l'ai au cul. Ton LSD et puis toi par-dessus. Pauvre jeunesse, tu t'es endormie avec ton astidage.
Dans le texte de l'extrait de L'Émile que nous avons entendu juste avant, Pierre-Henri Tavoyot, donc de Rousseau, le livre 4. Donc au début du livre 4 de L'Émile, Rousseau a envisagé les différents stades de l'enfance. Il en vient à l'examen de la jeunesse et de l'adolescence qu'il situe autour de, disons, entre 15 et 20 ans. Eh bien, une des définitions qu'il propose de cette jeunesse, c'est notamment l'irruption violente de la sexualité. Mmh. Et c'est ce qu'il nomme la seconde naissance où l'homme enfin devient homme.
Oui, c'est vraiment une... L'Émile est une philosophie des âges de la vie, peut-être la première moderne, avant d'autres textes, et les derniers, ça sera Sartre et Simone de Beauvoir. Mais c'est vraiment un texte absolument extraordinaire, parce que Rousseau est réputé pour être l'inventeur de l'enfance, déjà. Celui qui reconnaît que l'enfance a une importance dans la vie humaine et n'est pas une période de la vie qui ne compte pour rien, ce qui était le cas jusqu'à présent, assez largement. Et le problème pour Rousseau et pour l'enfance, c'est de concilier la liberté, qui est pour Rousseau l'essence de l'homme, avec la faiblesse. Comment faire que cet âge de la vie n'est pas simplement un âge de préparation à la vie? Parce que ce serait tragique, vu la mortalité infantile de l'époque, s'il s'agissait de préparer la vie mais que la vie n'arrive pas. Donc il faut respecter l'enfance pour elle-même. Deuxième étape, l'adolescence. Là aussi, inventeur de l'adolescence, extraordinaire. Et le problème de l'adolescence, c'est pas comment concilier liberté et faiblesse, c'est comment concilier liberté et sexualité. Avec l'idée que la sexualité peut nous rendre fous, et la grande idée de Rousseau, c'est qu'elle va nous rendre sages. Alors là, c'est vraiment un truc philosophiquement absolument incroyable. Il y a une sagesse de l'amour. Et cette sagesse de l'amour, c'est pas l'amour platonique, c'est l'amour de la sexualité. Et Rousseau essaye de voir comment le
précepteur va, alors c'est un peu là pour le coup moins sympathique, mais va vraiment guider son élève pour faire en sorte que cette sexualité le rende sage et le rende heureux. Puis après, il y aura la troisième étape, l'âge adulte, c'est comment concilier la liberté et la vie commune. Dans le couple, avec Sophie, ça a mal se passer, ça a mal se terminer d'ailleurs, et puis politiquement, avec les autres. Et puis, il y aura une philosophie de la vieillesse, uniquement suggérée, qu'on retrouvera dans les rêveries du preneur solitaire, comment concilier liberté et déclin. Voilà, donc on a là une philosophie des âges de la vie absolument grandiose, qui nous parle encore ce pourquoi nous sommes, d'une certaine façon, encore des disciples de Rousseau, même si, à la faveur de l'individualisation que Rousseau connaissait uniquement à ses débuts, tout ça, les étapes, effectivement, sont brouillées. 15-20 ans pour l'adolescence, aujourd'hui, ça fait un peu rigoler. C'est évidemment beaucoup plus tôt. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la première expérience sexuelle, qui est d'ailleurs aujourd'hui extrêmement stable, elle ne baisse pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est aux alentours de 17,3-4 en moyenne, pour les hommes comme pour les femmes, n'est plus une étape de passage à l'âge adulte, c'est une étape de long interne à la jeunesse. Donc la sexualité a cessé d'être un seuil pour devenir un élément de la jeunesse parmi d'autres.
C'est finalement peut-être la définition la plus pertinente de la jeunesse, c'est quand on l'indexe sur une réalité qui est proprement biologique, à savoir l'avènement du désir proprement sexuel, qui implique d'être suffisamment formé sexuellement, anatomiquement, pour pouvoir profiter de cette sexualité. Et là, pour le coup, on en revient à la notion d'âge de la vie a un sens parce qu'il est quasiment scientifiquement établi.
Oui, mais objection, votre honneur,
oui, je vous en prie.
C'est que, justement, biologiquement, ça ne veut presque rien dire. C'est-à-dire, ouais. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de production, ça ne correspond pas à la vie sociale, puisque précisément, encore une fois, la vie sociale nous dit « tu peux, mais tu n'as pas le droit ». Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est justement de voir que le marqueur biologique, par rapport à l'image de la jeunesse que nous avons aujourd'hui, est totalement décalé. Et donc, la jeunesse, invention récente, du 19e assez largement, à la faveur de la scolarisation. Si vous voulez, on peut dire les choses d'une manière un peu brutale, c'est-à-dire que la jeunesse était une classe, non pas une classe d'âge, mais un âge de classe. L'adolescence était un âge de classe, c'était réservé aux bourgeois. Voilà, les paysans, les ouvriers n'avaient pas de jeunesse. Ils basculaient directement de l'enfance à l'âge adulte. La jeunesse se constitue progressivement au 19e siècle, 18e et 19e siècle, comme une classe d'âge à proprement parler. Et aujourd'hui, ce n'est sans doute plus une classe d'âge à proprement parler dans la mesure où il n'y a pas une jeunesse, mais vraisemblablement plusieurs jeunesses. Et politiquement, c'est un usage extrêmement délicat aujourd'hui d'avoir ce qu'on appellerait un discours à la jeunesse ou d'avoir des représentants jeunes.
Ce qu'on entend en permanence, c'est peut-être ça le problème. Vous avez raison, c'est le caractère singulier. On parle de la jeunesse ou des jeunes comme si c'était un groupe homogène, bien compact. Que ce soit dans les discours des hommes politiques, que ce soit dans le relais médiatique qui est fait de nombreux événements. On parle, les jeunes étaient présents. Mais qui étaient ces jeunes? Il n'y avait pas que les jeunes non plus. Les jeunes eux-mêmes se réfèrent, ça s'interpelle entre eux comme étant des jeunes, ce qui ne veut plus rien dire.
C'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer la jeunesse comme catégorie philosophique, qui là existe. Il n'y a pas de, c'est pas un mot. Ça, c'est existentiellement, il y a une phase de cette jeunesse. Et après, en regardant les choses plus en détail, aujourd'hui, grosso modo, la jeunesse étudiante, la jeunesse qui travaille, et puis la troisième jeunesse, celle qui ne travaille pas, qui n'est pas en emploi et qui n'est pas dans les tuyaux de l'État-providence, qu'on appelle les NEETs, Not in Employment Education or Training, et qui constitue, alors pour le coup, une bombe à retardement terrible de nos sociétés d'aujourd'hui, puisque c'est une jeunesse qui n'est dans aucun des tuyaux de l'action politique, que nos sociétés abandonnent littéralement. Et cette jeunesse va grandir, va vieillir, et ça va produire effectivement des effets délétères. C'est vraiment, s'il y a un objet politique, si je puis dire, ou des sujets politiques à traiter aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, c'est bien cette jeunesse-là, et on n'y arrive pas. En tout cas, c'est pas...
Le problème est peut-être quand même une question de vocabulaire. C'est parce que derrière jeunesse, le terme même de jeunesse et ce qu'on y met aujourd'hui exclut une partie de cette jeunesse.
Je vais être un peu provocateur. C'est-à-dire la jeunesse qui va dans la rue casse les moyens par lesquels on pourrait intégrer la jeunesse qui n'est pas intégrée. Et donc, il y a une certaine forme d'égoïsme de la jeunesse intégrée. C'est les étudiants qui, eux, bon, ont très peu de problèmes, ils vont se caser dans la vie, qui dénoncent les petites tentatives de réforme qu'on essaye de mettre en place pour faire en sorte que les jeunes qui sont désintégrés puissent s'intégrer.
Concerts et débats, la mobilisation citoyenne contre le projet de loi travail en France s'est prolongée toute la nuit. L'opération baptisée Nuit Debout s'est tenue dans une vingtaine de villes. À Paris, place de la République, ils étaient 500 en début de soirée, 50 vers 5h du matin et délogés par la police. Pour cette quatrième journée de contestation, les lycéens sont restés mobilisés. 200 000 auraient manifesté. 200 lycées étaient fermés ou bloqués jeudi.
Simplement, et le blocus, c'est une démonstration de force qui permet de montrer qu'on est là et qu'on est jeune et qu'on en a marre.
Pour les syndicats, le texte reste toxique pour les salariés.
Mais les salariés, on les prend vraiment pour de la merde. Et pour l'avenir de nos jeunes et tout ça, mais comme on voit nos jeunes qui sont dans les facs, ils sont assis sur les simples marches. On dit aux jeunes de faire des bacs plus et ainsi de suite. Mais en fin de compte, pourquoi faire ? Pourquoi faire pour se retrouver au chômage ?
Où allez-vous, jeunes gens ? Où allez-vous, étudiants, qui courez en bande par les rues, manifestant au nom de vos colères et de vos enthousiasmes ? Éprouvant l'impérieux besoin de jeter publiquement le cri de vos consciences indignées. Allez-vous protester contre quelque abus de pouvoir ? A-t-on offensé le besoin de vérité et d'équité, brûlant encore dans vos âmes neuves, ignorantes des accommodements politiques ou des lâchetés quotidiennes de la vie ? Allez-vous redresser un tort social, mettre la protestation de votre vibrante jeunesse dans la balance inégale, où sont si faussement pesés le sort des heureux et celui des déshérités de ce monde ? Allez-vous, pour affirmer la tolérance, l'indépendance de la raison humaine, siffler quelques sectaires de l'intelligence à la cervelle étroite qui aura voulu ramener vos esprits libérés à l'erreur ancienne en proclamant la banqueroute de la science ? Allez-vous crier sous la fenêtre de quelques personnages fuyants et hypocrites votre foi invincible en l'avenir, en ce siècle prochain que vous apportez et qui doit réaliser la paix du monde au nom de la justice et de l'amour ? Non. Non. Nous allons huer un homme, un vieillard, qui après une longue vie de travail et de loyauté, s'est imaginé qu'il pouvait impunément soutenir une cause généreuse et vouloir que la lumière se fasse et qu'une erreur soit réparée pour l'honneur même de la patrie française.
Ce texte dont je viens de lire les quelques lignes du début, Pierre-Henri Tavoyot, n'a pas été écrit en référence directe à Nuit Debout, et pour cause, c'est un texte d'Émile Zola, Lettre à la jeunesse, qui date de 1897. Pourtant, les échos sont troublants, hein, puisqu'il va même jusqu'à décrire le mouvement, à un moment qu'a insufflé Nuit Debout, d'aller crier devant les fenêtres du Premier ministre pour lui faire part de leur indignation. C'est exactement ce que Zola décrit. Pourtant, là, il s'adresse, lui, à la jeunesse, au moment de l'affaire Dreyfus.
La jeunesse anti-Dreyfusarde.
Et une jeunesse anti-Dreyfusarde, voilà.
Alors, le texte m'a toujours mis un peu mal à l'aise, ce texte de Zola, parce que, évidemment, il a raison sur la cause. Il faut défendre Dreyfus, ça c'est clair. Mais c'est un peu malgré tout sur ce texte, en imputant à la jeunesse le caractère entre Dreyfusard, c'est quand même un peu le discours du vieux con au jeune con. Zola avait écrit une lettre à la jeunesse une vingtaine d'années plus tôt où lui s'incarnait comme étant le jeune. Et grosso modo, il dit « De mon temps, les jeunes, ils défendaient des bonnes causes, mais aujourd'hui, ils sont complètement égarés. » C'est à certains égards ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la génération 68 qui dit aux jeunes aujourd'hui « Mais vous engagez pas dans la langue de bois, dans l'idéologie, c'est pas bien, vous êtes complètement des égoïstes. » Et ça fait frémir, par exemple, les 68ards. Aujourd'hui, la valeur qui est en tête chez les jeunes, c'est l'autorité. Alors les 68ards, ils ont une crise cardiaque quand ils entendent ça. C'est comment l'autorité ? Mais nous, on a été contre l'autorité, etc. Voilà, toujours l'idée qu'il y a une rupture de valeurs, alors que probablement aujourd'hui d'ailleurs, jamais les valeurs intergénérationnelles n'ont été aussi convergentes. De ce point de vue-là, on dispose d'études sociologiques. Olivier Galland, le meilleur sociologue de la jeunesse française, fait ça depuis une trentaine d'années de façon extrêmement fiable. Les valeurs sont à peu près les mêmes chez les jeunes et chez les
Mais d'ailleurs, cela en a bien conscience, parce que lorsqu'il s'adresse à la jeunesse, en fait, il s'adresse aux anti-Dreyfusards en général, oui. il s'adresse à la jeunesse en particulier, parce qu'il y voit la possibilité de pouvoir changer de cap. Oui, c'est-à-dire que pour lui, il associe la jeunesse à, disons, soit l'âge des possibles, soit l'âge du bon sens. Il dit, mais comment vous, si jeune et plein de vie, pouvez-vous vous tromper autant?
Oui, oui, bien sûr.
Donc là, c'est encore un prétexte finalement de s'adresser aux jeunes.
Voilà, la jeunesse a trahi ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la force de régénération du monde. Oui, bien sûr, la jeunesse, en un sens, c'est vrai, mais en un autre sens, c'est erroné. C'est-à-dire que les générations participent ensemble de la régénération et de l'évolution du monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, le discours le plus critique à l'égard de la politique ne vient pas tellement des jeunes, en vérité. Il vient surtout des plus âgés qui considèrent, oui, nous autres adultes, on trahit les jeunes. Quand on a toutes les enquêtes d'opinion, les jeunes, effectivement, trouvent que c'est plus difficile qu'avant de rentrer dans la vie, mais n'imputent pas la responsabilité de cette difficulté aux générations plus âgées. Ils disent simplement, c'est le contexte. Le contexte a changé. La justice intergénérationnelle ne veut pas dire qu'il faut déblatérer contre les générations plus âgées. Et au contraire. Les signaux de la solidarité intergénérationnelle sont aujourd'hui assez largement au vert, c'est-à-dire transmission financière, transmission de réseaux, transmission d'aide quotidienne. Il y a une formidable solidarité intergénérationnelle, d'autant plus surprenante qu'elle n'est plus obligée. On pouvait le comprendre dans les sociétés passées parce que, d'une certaine façon, le poids social faisait que les solidarités intergénérationnelles fonctionnaient mécaniquement, comme disait Durkheim. Mais aujourd'hui, j'allais dire, la société n'impose plus à aller voir la vieille grande tante qui sent mauvais et qu'on est obligé d'aider. Non. Et pourtant, ça continue d'exister. Donc, c'est encore plus puissant qu'avant. Donc, je ne crois pas du tout au schéma de la guerre des générations, ça c'est clair. Je pense que c'est un schéma simplificateur qui nous permet d'expliquer une réalité complexe. Au contraire, l'intergénérationnel est extrêmement porteur dans nos sociétés. I did a rap all night about his suicide. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get.
Un grand merci à vous, Pierre-Henri Cavoyeux, d'être venu nous parler de jeunesse.
Merci à vous.
Et de cette philosophie des âges de la vie que vous avez coécrit avec Éric de Chavannes, qu'on trouve aux éditions Grasset. Je renvoie également à Faire ou ne pas faire son âge, un ouvrage dont vous êtes l'auteur et qu'on trouve aux éditions de l'Aube. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. La semaine sur la jeunesse continue demain, mais avant cela, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous allez rendre service à ceux de nos auditeurs qui sont en thèse.
Oui, mais alors pas que, ça peut s'adresser à tout le monde. C'est un conseil, en fait des conseils d'Umberto Eco, comment écrire sa thèse, et ça vient de paraître aux éditions Flammarion.
Savez-vous quelle est la première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui ? Le cancer ? Raté. Ce sont les maladies cardiovasculaires.
Au cours de ces 180 secondes, nous allons faire une expérience philosophique de pensée. Et pour ça, je vais vous demander de vous imaginer dans un supermarché.
L'angoisse, le stress, des émotions que connaissent tous les doctorants. Que ce soit au moment de soumettre un article à une revue scientifique, ou comme ce soir, de présenter ses travaux devant un jury.
Voici la voix des 3 gagnants du concours Ma thèse en 180 secondes, édition 2016 et française. 3 gagnants donc qui ont réussi à résumer leur thèse de plusieurs centaines de pages et années en 3 minutes chrono. Énorme défi s'il en est, un autre en est aussi d'écrire sa thèse. Mais finalement, tout cela peut paraître bien dérisoire, car en fait, qui écrit une thèse? Eh bien officiellement, 63 500 personnes en France. Et si l'on y pense, à défaut d'en écrire une, ne passe-t-on pas notre temps à soutenir des thèses? Sur l'actualité par exemple, sur un film visionné, ou encore sur des choses plus absurdes ou essentielles, comme par exemple sur les relations amoureuses et la manière de les gérer. Dans Comment écrire sa thèse, qui était d'abord un manuel destiné à ses étudiants et que les éditions Flammarion font paraître pour la première fois en français, Umberto Eco nous éclaire justement sur ce qu'est une thèse et plus largement sur la meilleure manière de faire ce que l'on fait tous les jours sans même s'en rendre compte et dès que l'on échange avec quelqu'un. Eco nous dit ainsi pour commencer qu'une thèse sert à identifier un sujet et puis qu'elle consiste à rassembler des documents sur ce sujet et à les organiser. Et enfin, à leur donner une forme systématique pour se faire comprendre de son interlocuteur. En fait, pour résumer, une thèse est une expérience de travail, c'est une construction d'un objet de pensée que l'on va rendre compréhensible, soutenir et défendre auprès de quelqu'un. On oubliera ainsi de parler comme un poète, d'expliquer quand on fait de l'ironie, on ne sera pas non plus obligé de tout lire sur le sujet, non, le principal est de faire de la thèse, de ces thèses, un jeu, un pari, une chasse au trésor même, nous dit Eco. Le vrai défi dans une thèse, c'est donc la thèse elle-même pour Eco, et c'est de se mettre soi-même au défi.
Eh bien, je souhaite qu'il ait raison. Facile à dire, on verra si c'est facile à faire.
Il faut lire ce livre parce qu'il est très drôle. C'est donc Comment écrire sa thèse, donc par Umberto Eco. C'est aux éditions Flammarion. Et puis, je signale que la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes aura lieu le 29 septembre à Rabat, au Maroc.
Le défi est lancé. Merci Géraldine, merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin. Mais on se retrouve demain pour la suite et fin de consacrer, de cette semaine consacrée à la jeunesse. Demain, nous parlerons de Truffaut, François Truffaut à Antoine Doinel en nous posant cette question. Quand et comment sortons de l'enfance? Ce sera Arnaud Guigues qui viendra en parler. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la télécharger, la podcaster pour l'écouter à l'heure de votre choix. Et rendez-vous également sur nos pages Facebook et Twitter, où le compte des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour.